Valérie Mans, on dit bien Mans ?
Mans.
Mans, voilà.
Bonjour.
Je corrige, Mans. Alors, nous sommes au Festival du film d'histoire de Pessac, 32e édition, voilà. Où l'un de vos documentaires est présenté, Journal d'une bonne. On suit Félicité Lavergne. Comment est cette envie de suivre ce parcours ? En tête du film, on voit que ces bonnes, ces domestiques de maison, étaient oubliées d'histoire.
Absolument. En fait, ce film est parti de... tous mes films, la grande problématique que je suis, c'est sur la liberté. Et la question de la domination m'habite beaucoup. J'ai une réaction très épidermique par rapport à la domination. Et j'avais lu il y a une vingtaine d'années le livre de Anne-Martin Fugier, qui est la conseillère historique du film, sur justement les bonnes au début du XXe siècle. Et pendant le premier confinement de la pandémie, en mars 1920, j'ai eu le sentiment que la société découvrait beaucoup d'invisibles, livreurs, caissiers. Et je me suis dit, si je voulais faire un film d'histoire, qui seraient ces invisibles de la première partie du XXe siècle ? Et bien sûr, les domestiques, les invisibles qui sont évidemment liés à la vie des foyers, à la vie des familles. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai imaginé que ce serait intéressant de faire un film sur la domesticité en France, sur la domesticité en France. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pour trouver des témoignages de journaux. Certains livres ont été publiés, et puis ensuite il y a eu toute une recherche qui a été faite, notamment avec les producteurs de la compagnie des Phares et Balises, pour trouver des journaux anonymes. Et donc je suis partie de 7 livres ou journaux pour écrire ce film.
Et vous parlez justement on est autour des années 1900,
oui.
On parle de la Belle Époque, mais c'était pas la Belle Époque pour ces domestiques.
Absolument pas, c'était... justement une période où les rapports de domination étaient très installés, où dans toutes les familles françaises, à part les ouvriers, il y avait des domestiques, de la fille de ferme à la bonne à tout faire. Il y avait donc dans les campagnes, chez les petits bourgeois, dans la bourgeoisie, donc dans tous les milieux sociaux, il y avait des domestiques qui étaient évidemment considérés de différentes façons. C'est très très différent d'être fille de ferme que d'être dans la grande bourgeoisie parisienne, par exemple. Mais de fait, ça faisait complètement partie du fonctionnement classique de la société française.
Et quand on suit le parcours de Félicité, elle a 14 ans quand elle est envoyée par ses parents chez un fermier,
oui,
ou un bourgeois, voilà, qui utilisera sa bonne vraiment dans tous les sens du terme. Elle sera violée.
Ça, c'est chez les petits bourgeois.
Ah, les petits bourgeois.
Ça, c'est chez les petits bourgeois à 40 km de là où elle est. Donc, en fait... le premier poste qu'elle a, là, c'est donc une famille de paysans où là, elle se rend compte qu'elle n'est pas payée.
Elle vit dans le froid.
Voilà, elle vit dans une écurie. Et finalement, elle va... c'est évidemment un monde paysan très catholique. Et la seule chose qui la tient, c'est qu'elle va à la messe le dimanche. Et le jour où il y a trop de travail et il y a la moisson et où le père de famille l'empêche d'aller à la messe, elle se révolte. Et donc, c'est là qu'elle va aller au marché et qu'elle va aller vers des femmes et leur dire, voilà, je suis prête à me mettre à votre service. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer la famille d'après, qui est donc dans les faubourgs de Clermont-Ferrand. Et effectivement, c'est une famille petite bourgeoise et la petite bourgeoisie est particulièrement sévère avec les domestiques, puisque comme je l'écris dans le film, ils font partie de la classe de ceux qui dominent et non plus ceux qui sont dominés. Donc, et en même temps, ils sont pas très loin de cette domesticité. Donc c'est pour ça que les relations sont particulièrement violentes dans cette famille-là. Et en effet, le père la viole pendant des années.
Et le jour où elle tombe enceinte, elle est congédiée.
Absolument, c'est-à-dire qu'elle... les domestiques à l'époque n'avaient aucune protection sociale, même les lois qui avaient été notamment mises en place grâce aux manifestations et au combat des ouvriers n'est pas applicable à la domesticité. Ils n'ont pas de repos hebdomadaire. n'ont pas des horaires fixes. Ils travaillent de 5-6 heures du matin à 22 heures, minuit. Ils sont réveillés la nuit. Quand ils sont renvoyés, ils n'ont aucun moyen de se défendre. Sans solde, donc ils n'ont pas de gage. Et en fait, la loi va mettre beaucoup de temps à évoluer et à leur être favorable parce que l'État considère que c'est la vie privée et donc on ne légifère pas avec la vie privée. Quelque chose de très étonnant aussi, c'est que quand on est un domestique, sur le plan pénal, si par exemple on commet un vol, on n'est plus condamné que si on n'est pas un domestique. Quelque chose de très étonnant.
Oui, une justice à deux vitesses. Et après, elle est congédiée, elle va se retrouver à l'usine.
Là, c'est vraiment pour elle un espoir très fort de pouvoir s'émanciper de la condition de la domesticité. De fait, à l'époque, il y a eu la révolution industrielle et la France est en plein bouleversement, en pleine expansion du capitalisme. Et par contre, elle déchante très vite parce qu'à l'usine, non seulement les conditions de travail sont épouvantables, quand même elle est payée à la semaine, mais elle a beaucoup de mal à s'adapter et à s'intégrer parce que les ouvriers n'aiment pas les domestiques. Ils considèrent que ils sont trop proches, ils les appellent les larbins, ils n'aiment pas le fait qu'ils servent et qu'ils sont trop proches de la bourgeoisie. Il y a eu notamment pendant la Commune, en 1970, beaucoup de domestiques ont essayé de protéger leur maître. Et ça, les ouvriers ne l'ont pas du tout oublié.
Ne pardonnent pas.
Non.
Quand Valérie Mans, quand vous l'accompagnez, Félicité Lavergne, tout au long de son périple et de son parcours, qu'est-ce que vous constatez par rapport au statut des femmes, puisque la thématique du festival cette année, c'est masculin-féminin? Là, elles sont non seulement invisibles, les hommes aussi, quand ils servaient, ils étaient invisibles, mais c'est peut-être encore accentué pour les femmes.
Absolument, puisque non seulement elles subissent une domination sociale, elles subissent une domination masculine, mais dans la condition, puisque c'est un film sur la condition de la femme et à ce titre qui rentre absolument dans la thématique masculin-féminin, c'est qu'elles doivent subir la domination masculine à la fois de la bourgeoisie, enfin des maîtres, et des domestiques, puisque les domestiques reproduisent le corps social et de la même manière qu'il y a une hiérarchie, chacun a son rôle, chacun a sa place, les hommes, puisqu'ils ne possèdent rien, se permettent d'aller sur le territoire du corps de la bonne et donc violent les bonnes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est là et donc elles subissent la violence de la domination masculine, voilà, à la fois des hommes de leur condition et des hommes qui les emploient.
Et cette hiérarchie que vous mentionnez au niveau déjà des domestiques, elle se retrouve aussi au niveau alimentaire parce que les bonnes ont droit à certaines parties nobles, plus nobles, mais la meilleure partie sont réservées pour les domestiques les plus importants.
Absolument. Alors c'est intéressant parce que la guerre de 14-18, quand même c'est une tragédie absolue, aura permis ça, qu'avec les tickets de rationnement, en 18, les domestiques du coup qui n'avaient pas le droit au sucre auront le droit au sucre. Donc il y a une démocratisation d'un accès à la nourriture. Par contre, effectivement, dans les grandes familles de la bourgeoisie, de manière générale, les domestiques mangent mal. On les reste, sont mal nourris, sauf dans certaines familles, mais c'est plutôt exceptionnel. Et à partir du moment où c'est des domestiques dans des grandes familles où ils sont nombreux, c'est le chef cuisinier, le majordome, donc la hiérarchie chez les hommes qui a le droit de manger comme les maîtres. Donc même dans la nourriture, il y a en effet une hiérarchie. Et ce sont les hommes, puisque la gouvernante, nourrice, femme... tous les postes qu'occupent les femmes, elles n'ont pas... La seule chose, c'est la nourrice qui n'est pas réveillée la nuit. Pourquoi ? Parce que de sa santé dépend celle des enfants. Donc, elle a ce...
Elle est en forme la journée.
Voilà, il faut qu'elle soit en forme la journée, il faut qu'elle ait du lait. Donc ça, on ne la réveille pas la nuit. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est la hiérarchie des hommes qui va avoir accès à une nourriture meilleure.
Par rapport au parcours de Félicité que vous accompagnez, Valérie Mans, après, elle part à Lyon, d'abord, avant de rejoindre Paris. Et ces étapes vont lui ouvrir les yeux sur une réalité qu'elle ne soupçonnait pas.
Absolument. C'est aussi un film sur le rapport à l'espace. Et en effet, de ce village d'où elle vient, la première ferme où elle travaille, qui est à 15 km, puis 40 km, puis Saint-Étienne, puis Lyon, puis Paris, elle va pouvoir s'ouvrir au monde quand même. Elle est tout à fait consciente que le monde ne lui est pas accessible. Et là où vraiment le monde s'ouvre, c'est à Paris, chez les banquiers, puisque là, elle dit qu'il y a des livres partout, il y a des revues. Non seulement sachant qu'elle est allée à l'école communale, donc elle sait lire et écrire, mais surtout, elle va rencontrer Madeleine, une cuisinière, qui, elle, est politiquement engagée, qui lit des revues de gauche, et donc qui va vraiment éveiller sa conscience politique. À la fois, grâce à cette rencontre avec Madeleine, elle va pouvoir demander une augmentation, quand bien même, je ne raconte pas quelle est l'issue de cette augmentation, mais elle fait cette démarche qui était incroyable à l'époque. Et ensuite, Madeleine lui raconte comment résister autrement. Et donc, je ne vais pas non plus raconter tout le film, mais voilà, donc comment résister autrement. Donc pour elle, c'est une vraie ouverture. Et c'est vrai qu'à ce titre, le fait qu'elle sache lire et écrire, c'est ce qui va la sauver. Puisque écrire est un exutoire, écrire ce journal est un lieu de mémoire, puisque c'est là qu'elle va transmettre à sa fille sa vie.
Joséphine.
Et écrire est un espace de liberté. Chaque moment où elle écrit, c'est ça de gagner dans sa liberté. Et enfin, écrire va lui permettre ce parcours d'émancipation, puisque c'est à travers ce journal qu'elle va, je pense, aussi peu à peu maturer les choses. Et c'est vraiment un temps, c'est hors temps en fait. C'est-à-dire que par rapport à la suractivité qu'elle a dans la journée, ces moments très préservés, très précieux. C'est aussi là qu'elle peut prendre de la distance, qu'elle peut analyser les choses et qu'elle va peu à peu décider de réfléchir à un projet de vie qui la sorte de sa condition.
Et l'écriture, elle sera aussi un lien, même ténu, mais avec sa famille. Quand elle perd sa première grossesse, c'est dramatique physiquement et sa mère lui reproche.
C'est terrible ce moment-là où elle a fait une fausse couche et où sa mère attend l'argent. Et en réalité, si elle ne peut pas donner l'argent, au début, c'est parce qu'on ne la paye pas. Et ensuite, c'est parce que là, chez les petits bourgeois, elle a un petit peu d'argent, mais cet argent lui permet... Elle est tellement mal payée qu'elle peut uniquement leur écrire. Donc acheter du papier et un timbre, une plume, et de quoi se vêtir. Donc en fait, elle ne gagne pas assez pour leur envoyer. Et effectivement, quand elle arrive à l'usine, où là, elle est un tout petit peu mieux payé, hein. c'est 6 euros la semaine, ça fait 24 euros le mois, avant c'était 20 euros.
Et là,
de francs. Donc elle ne peut pas envoyer d'argent, et effectivement, ça, c'est terrible ce qu'écrit sa mère, parce que, et c'est ce qui la révolte complètement. C'est-à-dire qu'elle est une mauvaise fille, sa mère indigne. Dit qu'elle est indigne, et là, elle se bat tellement, elle est tellement courageuse, elle est tellement seule. Elle est tellement en exil que l'idée qu'elle soit en plus une mauvaise fille parce qu'elle n'a pas envoyé d'argent, c'est ce qui va vraiment faire qu'elle va partir à Lyon. Et c'est de Lyon qu'elle va pouvoir arriver à Paris. Donc c'est vraiment... la révolte arrive à ce moment-là, au moment où sa propre famille la rejette. C'est-à-dire qu'elle est rejetée de partout. Et c'est au moment où sa mère, effectivement, l'accable, dans un moment très difficile de son existence, qu'elle va, et d'ailleurs, une fois qu'elle sera à Lyon, il y aura la guerre, et de fait, elle ne peut pas écrire, mais la rupture avec la famille arrivera à ce moment-là.
Donc on comprend la différence, puisqu'on masculin-féminin, la thématique, les garçons ne sont pas traités comme ça. Elle, en tant que fille, elle doit rapporter de l'argent, peu importe ce qui lui arrive.
Absolument, et surtout, je pense que... C'est sur la condition féminine, mais par rapport au masculin féminin, en effet, les femmes domestiques étaient bien moins loties que les hommes, d'autant que étant violées, ce que n'étaient pas les hommes, étant tombant enceinte, elles perdaient leur travail du jour au lendemain. Elles se prostituaient pour pouvoir élever leur enfant. Donc en fait, elles vivaient dans des conditions beaucoup plus difficiles que les hommes. Ça, c'est certain.
Il y a une hypocrisie des gens qui les emploient.
Il y a une grande hypocrisie, notamment un des moments qu'il raconte qui est particulièrement stupéfiant, c'est encore quand elle est dans une ferme ou chez des petits bourgeois qui ont peu d'argent, qui refusent une augmentation, on peut imaginer qu'ils ont un budget serré. Mais enfin, quand elle arrive chez des grands banquiers à Paris qui refusent absolument de l'augmenter, c'est un scandale. Mmh. C'est assez terrifiant d'imaginer qu'elles sont aussi mal payées et que ça ne pose aucun problème éthique à ces employeurs.
Des employeurs qui sont quand même sous l'emprise, en tout cas qui pratiquent le catholicisme. Donc normalement, il y a une certaine moralité, une équité, puis en fait, elle n'est pas appliquée.
Mais ça aussi, c'est une de ses révoltes. C'est que, notamment dans les débuts, quand elle va beaucoup à l'église, c'est que effectivement, dans le catholicisme, il y a cette idée du sacrifice de sa vie et que donc, plus tard, après la mort au paradis, il y aurait... les choses seraient rééquilibrées et d'avoir accepté une vie de labeur, une vie difficile serait récompensée. Et elle comprend assez vite que les riches aussi, on leur promet ça. Mmh. Et donc ça fait partie aussi de sa révolte, c'est-à-dire cette prise de conscience que la morale dans laquelle elle a été éduquée, instruite, est en réalité une morale qui la maintient dans sa condition.
Et ce qui la sauve, Valérie Mann, c'est le fait de pouvoir écrire tout au long de sa vie. Oui. C'est ça qui la sauve, d'avoir pu accéder à l'école communale.
Ce qui la sauve, c'est d'avoir pu, venant d'un milieu extrêmement pauvre, aller quand même à l'école communale. Donc j'imagine que...
Un milieu paysan.
Totalement paysan. Donc j'imagine qu'en ces cas-là, elle n'allait pas à l'école tous les jours. Elle allait de manière ponctuelle, mais elle a pu. Et c'est ça qui la sauve. C'est-à-dire que c'est le seul espoir de ce film, c'est que c'est l'éducation, en fait, qui permet l'émancipation. Et c'est grâce à l'écriture, à la lecture, qu'elle va... Donc dès le début, elle fait des lignes, hein, qu'elle va à un moment décider c'est énorme de décider d'écrire. Hein. L'acte d'écrire est très très important. Et dans la lecture, ça va être le moment où elle achète un dictionnaire pour apprendre, et où elle va lire chez ses patrons et la presse, et les revues illustrées, et ça c'est une ouverture incroyable sur le monde, et les livres. Et donc c'est là qu'effectivement l'émancipation est possible. Mais quand on est fille de ferme ou bonne à tout faire chez des petits bourgeois... dans une toute petite ville ou dans les faubourgs d'une petite ville, il n'y a aucun moyen d'accéder à la liberté.
Et grâce à Madeleine, elle va lire des journaux politiquement engagés. Ça aussi, ça la conscientise. Absolument. C'est un acte libérateur de l'écriture.
Absolument. Et effectivement, le fait qu'elle lise des revues, la revue des droits de l'homme, qui était... Et pareil, il y avait des revues pour les domestiques, il y avait des journaux. Dans le film, elle en lit un exemplaire. Donc, il y a aussi il y avait aussi des syndicats de domestiques, mais qui n'ont jamais bien fonctionné. Ils n'ont jamais manifesté. D'abord, ils n'avaient pas le temps de ça. Et ça n'a jamais fait partie de leur culture, en fait. Donc, c'est effectivement... Et puis, je pense que d'être dans une grande ville, il y a aussi la question de l'enfermement. C'est que, étant dans une grande ville, elle peut sortir... dans la condition de la domesticité, il y a aussi l'enfermement. Il y a l'exil, il y a la solitude et il y a l'enfermement. Et c'est la raison pour laquelle la manière dont on filme, dont j'ai choisi de filmer Félicité Lavergne avec Anna Fournier qui l'incarne, c'est d'avoir aucune profondeur de champ et d'être vraiment de son point de vue, donc d'un point de vue subjectif et dans un cadre très très enfermant. Et peu à peu, le cadre va s'ouvrir. Et en même temps, on part des paysages de l'Auvergne, extrêmement ouverts, à la chambre de Bonne, qui est complètement fermée. Mais il y a cette circulation des filles entre elles au sixième étage, ces discussions possibles, cette Madeleine cuisinière qui est donc qui lit les cahiers des droits de l'homme et qui se révolte. Et donc ça, évidemment, ça va la nourrir dans le fait qu'elle peut, elle aussi, à un moment... sortir de sa condition. La plupart avaient pour désir de soit revenir dans leur village natal, très peu y arrivaient, soit d'ouvrir un commerce.
Valérie Mann, quand vous l'accompagnez, on ne va pas tout dévoiler, mais on a parlé de sa fille Joséphine. Et en fait, c'est une vie d'abnégation parce qu'elle travaille pour pouvoir lui rendre visite d'abord une fois par mois, puis après tous les 3 mois.
Absolument, c'est-à-dire que la plupart des domestiques ne pouvaient évidemment pas vivre avec leur enfant. Elles étaient en nourrice, celle qui est à Paris les envoyait en Normandie, et c'était un déchirement terrible. Et le fait que leur gage ne leur suffisait pas pour élever leur enfant, et là aussi, où elle se sacrifie, c'est qu'elle souhaite que sa fille soit dans un pensionnat et étudie, sa fille peint. Et
pour lui épargner la même vie.
Absolument. Et donc, effectivement, on la voit dans ce pensionnat avec une éducation meilleure que celle qu'elle a reçue. Mais la contrepartie est l'éloignement et le fait que le lien entre la mère et la fille n'est pas évident.
Il y a quand même une transmission, puisque le foulard qu'elle a reçu de sa mère quand elle est partie à 14 ans, elle va le donner à sa fille.
Le châle, absolument. Oui, le châle. Elle le donne, mais sa fille l'oublie sur cette chaise au pensionnat. Mais je ne raconte pas la fin. Il y a des choses qui sont néanmoins rendues possibles dans leur relation. Et je pense qu'en effet, le plus fort, c'est de faire en sorte que sa fille n'ait pas la même vie qu'elle et qu'il y ait une rupture dans cette... parce qu'on imagine que venant d'une famille très pauvre, les générations au-dessus, il y avait eu beaucoup de filles de ferme et de garçons de ferme et de bonnes à tout faire, que c'est transmis depuis plusieurs générations. Donc l'idée est d'arrêter cette transmission et de sortir de ce que l'une d'entre elles décrira comme un cauchemar dont elle se réveille un jour, heureusement.
Alors Valérie Mantz, là on accompagne Félicité Lavergne, vous êtes basée sur 7 journaux, comme vous avez dit en début d'entretien. Félicité, c'est incroyable pour l'époque, elle parcourt toute la France puisqu'elle se retrouve sur la Côte d'Azur.
Alors ça, c'est vraiment lié au fait qu'étant dans une famille très riche, il y avait cette fameuse villégiature et où du coup les domestiques pouvaient aller soit sur la Côte d'Azur, soit sur la Côte Basque. Et donc avoir accès à... quand bien même eux travaillaient énormément, mais au moins à découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles lumières, des nouvelles saveurs.
Des nouvelles senteurs.
Des nouvelles senteurs. Ça, c'est vraiment lié à des familles, voilà, dans les familles très riches, où il y avait effectivement, quand la grande bourgeoisie partait en villégiature, ils emmenaient leurs domestiques comme leurs valises, comme leurs meubles. Ils partaient avec tout ce qui faisait partie de ce qui leur appartenait.
Valérie Mantz, vous avez mentionné le chant que vous avez choisi d'abord pour exprimer la solitude, l'isolement. Et parlez-nous un petit peu aussi de ce choix entre les images d'archives et des scènes d'évocation. Et cette alternance.
En fait, c'était très important pour moi de donner à cette bonne Félicité Lavergne un corps, puisque je trouve que de toutes les violences qu'elle subit sociales, la domination masculine, c'est le corps qui subit la violence la plus extrême, puisque c'est son intimité la plus forte. Et donc, seule une actrice pouvait, à mon sens, incarner ce corps meurtri, ce corps violenté, ce corps violé, ce corps dressé. Elle commence, elle est un peu voûtée, en fait. Elle se tient pas droit, et peu à peu, elle va non seulement se relever, mais elle va être dressée aussi. Elle va devenir un automate, en fait. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait ce corps présent à l'image. Et je voulais aussi donner un visage, une identité et un nom à cette bonne, puisque ce sont des journaux de femmes anonymes. Et je voulais absolument, dans ce désir d'entendre des voix disparues, anonymes, invisibles, des traces perdues, je voulais aussi donner un nom et un visage à ces femmes qui ont vécu des choses si dramatiques.
Oui, ainsi, grâce au nom, à l'identité, on peut prendre la mesure de ce qu'elles ont vécu, plus que dans l'anonymat.
Absolument, et notamment il y a une scène où justement cette Sidonie qui est heureuse, son maître qui lui demande comment elle s'appelle, et elle dit Sidonie, et lui dit mais chez nous ce sera Bobonne, donc on leur a enlevé jusqu'à leur nom.
Pour vraiment effacer leur identité.
Absolument, pour effacer complètement leur identité, elles sont au service. Elles doivent être habillées d'une certaine manière et elles n'ont plus d'identité, de nom. Elles doivent être transparentes, invisibles. Et c'est parce qu'aussi la domesticité, c'était le mal. C'est le revers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la bourgeoisie, il y a les valeurs et la domesticité incarne cet envers qui, évidemment, aurait été porté aussi par la bourgeoisie. Mais, par exemple, sur la sexualité... Il y a après le fantasme de la bonne, mais c'est pour ça qu'il y a cette scène de bal, moi, que je trouve si impressionnante de la manière dont c'est une exhalaison, c'est-à-dire que la domesticité porte tous les vices de la société, et de la même, ce qui est évidemment complètement faux, mais pour la bourgeoisie, c'est une projection et c'est une manière de se débarrasser de leurs propres vices. Et c'est là aussi à la répartition physique correspond à la répartition à la à la répartition géographique spatiale correspond la répartition morale, c'est-à-dire qu'il y a l'étage, le deuxième étage le plus noble, les domestiques, quand on est dans les grandes villes, sont au sixième étage, c'est l'étage de la décadence, c'est l'étage de la perdition. Donc, alors même que parfois des jeunes maîtres montaient au sixième étage. Donc il y a vraiment l'idée de à travers les domestiques, de, non seulement c'est une maltraitance terrifiante, mais en plus c'est l'envers de ce que la société est censée... c'est-à-dire que c'est la part mauvaise, perverse... insignifiante de la domination, en fait. Et c'est terrifiant de voir à quel point c'est-à-dire que c'est une domination qui n'en finit pas, puisqu'elle va jusque-là, elle va jusqu'à cette conception de cette perdition morale qui serait du fait des domestiques, voilà, pour une sorte de bouc émissaire, en fait, hein, de rejet de tout ce qui dysfonctionne, qui est portée par la domesticité. Et si les jeunes filles de bonne famille ont des perversités sexuelles, c'est parce qu'elles ont été initiées au contact. C'est vraiment le contact qui pollue, qui détruit. C'est effrayant.
Est-ce que c'est une manière aussi pour les gens qui les emploient de peut-être cacher leurs propres vices?
Mais oui.
En leur attribuant ça.
Mais absolument. C'est de la même manière qu'il y a une des maîtresses qui est hypochondriaque et qui pense qu'elle va mourir qui refuse l'idée que la bonne puisse mourir avant elle. Mmh. Voilà, c'est ça.
Égocentrique.
C'est le miroir inversé, en fait. Et donc, tous les vices de la bourgeoisie sont portés par les domestiques. C'est ça que je parle de bouc émissaire. C'est assez... Alors, là, le film, il est vraiment sur le vécu personnel, intime, de cette bonne qui est toutes les bonnes, qui incarne un corps de bonne. Mais c'est vrai que je trouve qu'on le sent de manière dans un autre niveau, en fait. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment notamment dans la soirée où elle entend des maîtres, la noblesse parler des domestiques, et on sent que c'est un miroir de ce qu'ils sont en réalité, effectivement.
Rapidement, puisque vous devez nous quitter, Valérie Mans, vous avez d'autres films au Festival d'Histoire de Pessac? Vous pouvez nous dire quelques mots en 4 minutes.
J'ai deux autres films. J'ai un film qui s'appelle Le ciel est à elle, sur trois femmes aviatrices dans l'entre-deux-guerres, qui va être diffusé sur France Télévisions dans la case du siècle le dimanche prochain, qui est un film très féministe sur le parcours de trois femmes qui sont dans un monde exclusivement constitué d'hommes, puisque c'est l'aviation, qui sont des héroïnes, des figures très romanesques, parce qu'elles prennent beaucoup de risques. À chaque vol, elles peuvent mourir. Qui sont maltraitées par les hommes, rejetées. Certains qui sont jalousées par les hommes, puisqu'évidemment, il faut qu'elles aient un sacré caractère pour parvenir à voler, puisqu'en plus, à l'époque, comme aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Et certains de leurs avions étaient même sabotés. Et donc, c'est vraiment... trois figures qui sont très différentes, qui s'identifient à des exploits très différents. C'est Adrienne Bolland qui, elle, c'est vraiment l'aventure, c'est les Andes, traverser les Andes. Maës Bastier, c'est la durée, c'est 36 heures en vol. Hélène Boucher, c'est la vitesse. Puisqu'à un moment, elle est l'être au monde le plus rapide. Et c'est vraiment ces femmes dans un monde d'hommes, ces femmes très courageuses, avec une ténacité absolument extraordinaire, et qui à un moment sont meilleures que les hommes, sont plus fortes que les hommes. Et ça, les hommes leur font payer ça, voilà, c'est compliqué. Mais donc c'est très romanesque comme film, et c'est vraiment un film d'aventure. Voilà, il y a le désert, il y a la jungle, c'est un film aussi qui permet de rêver... qui est très poétique aussi.
Les horizons.
Voilà, il y a des scènes d'hallucination en vol notamment. Et le deuxième film, c'est l'Odyssée d'Albert Londres, qui sera diffusé le 27 novembre dans la case du siècle sur France 5 également. 2 minutes Albert Londres, c'est le plus grand reporter du XXe siècle, c'est un pionnier et c'est un graphomane, il écrivait énormément. Il a écrit 2000 pages de câbles, reportages, de livres. Et c'est un portrait avec un point de vue très... l'idée était vraiment de partir de ses propres textes, ce qu'il a écrit, puisque ce qui m'a intéressé, c'était de restituer son regard et en même temps de trouver une trajectoire qui montre à quel point il a d'abord été correspondant de guerre, il a couvert après énormément de conflits dans l'entre-deux-guerres, mais qu'à un moment, il s'est vraiment intéressé au dysfonctionnement de la société française Et à chaque fois, il avait le courage d'aller là où personne ne voulait aller, notamment dans les bagnes, dans les asiles psychiatriques. Et à chaque fois, il plongeait un peu plus dans les enfers et dans l'apocalypse et dans les bas-fonds de l'âme humaine, comme il l'écrit. Mais à chaque fois, il remontait meilleur, plus secourable et plus humain et plus sensible. Et ça, c'est assez merveilleux de voir confronté à des situations extrêmement violentes. Il avait une foi extraordinaire dans l'humanité.
Et en même temps, il a donné une visibilité à ceux dont on ne parlait pas.
Absolument, entre les bagnards, les malades mentaux, les juifs d'Europe centrale dans les ghettos. Là encore, une recherche effectivement d'être toujours confronté à la folie humaine et de redonner à tout ce dont on ne veut pas, dont on ne parle pas, il dit que ce sont des personnes que la société ne peut pas nourrir, dont elle ne veut pas, les rejeter, les exiler, les ceux qui sont aussi effectivement dans l'ombre, comment on peut parler d'eux, comment on peut aller à leur rencontre et essayer de comprendre ce qui les anime et surtout dans quoi ils vivent et s'il est possible ou pas de se sortir de leurs conditions. Donc c'est très très engageant comme journalisme, c'est vraiment l'époque... C'est pour ça que c'est une légende, c'est qu'il est remarquable aussi dans sa capacité de travail, dans la manière dont il se documentait, il partait très longtemps, il écrivait beaucoup quand il rentrait, et surtout d'avoir une indépendance d'esprit extraordinaire.
Merci beaucoup Valérie Mann, ça donne envie. Merci infiniment.
Je vous en prie.